Voix Afrique.
Le Monde aujourd'hui. À Washington, Chérubin Dorsil et Morgane Guiriec.
Bonsoir à tous, bienvenue à l'édition de ce jeudi 1er octobre 2015. À la une ce soir.
Un nouveau développement au Burkina Faso, le chef des putschistes, le général Gilbert Diendéré, est aux mains de l'armée loyaliste.
Le timing a été respecté. Le général Gilbert Diendéré sera jugé avec tous les auteurs du coup d'État. Pour le premier ministre, Yacouba Isaac Zida, au-delà du châtiment, il faut surtout retenir la valeur pédagogique de ce jugement.
Un reportage à suivre de notre correspondant Zoumana Wunogo. La violence persiste au Burundi. 3 morts et 10 blessés ont été enregistrés hier soir dans la capitale Bujumbura et dans le sud du pays.
Situation toujours tendue à Bangui, mais le calme revient peu à peu dans la capitale centrafricaine après plusieurs jours de violence.
Assemblée générale de l'ONU à New York, Benjamin Netanyahou rejette l'accord sur le nucléaire iranien, promet de lutter contre les djihadistes et tend la main aux Palestiniens.
Dans moins de 10 minutes, l'économie et les sports.
Mais d'abord, le journal.
Nous ouvrons sur le Burkina Faso. Le général Gilbert Diendéré, le chef des putschistes, a été remis aux autorités par l'ambassade du Vatican. Gilbert Diendéré sera jugé de même que tous les auteurs du coup d'État manqué, assure le Premier ministre Yacouba Isaac Zida. Correspondance de Zoumana Wonogo à Ouagadougou.
Déjà ce matin, après avoir présidé la rentrée judiciaire, le Premier ministre Yacouba Isaac Zida disait ceci à propos du général Gilbert Diendéré. On écoute.
Le chef de putschistes s'est retranché, il abandonnait bien sûr ses soldats. Et il s'est retranché dans une enclave diplomatique. Et le Burkina Faso est respectueux donc de cette enclave diplomatique. Là, nous n'allons pas violer. Donc nous sommes en négociation pour que l'on puisse nous le remettre. Mais nous comprenons qu'ils ont besoin aussi d'avoir un certain nombre de garanties que sa vie sera sauve. Garanties que nous avons bien sûr données. Donc ce n'est plus qu'une question d'heure. Nous allons pouvoir donc le récupérer et le mettre à la disposition de la justice.
Le timing a été respecté. Le général Gilbert Diendéré sera jugé avec tous les auteurs du coup d'État. Pour le Premier ministre, Yacouba Isaac Zida, au-delà du châtiment, il faut surtout retenir la valeur pédagogique de ce jugement. Suivons.
Les auteurs du coup d'État vont devoir être jugés et tout le peuple burkinabé en attente de voir donc le sort qui va être réservé donc à ces putschistes-là. Mais ce n'est pas tant le châtiment qui va être réservé que les enseignements pédagogiques que nous allons retirer pour chacun des Burkinabés, pour les politiciens, pour les militaires, pour l'ensemble du peuple, afin que définitivement l'on comprenne qu'au Burkina, il ne peut plus être toléré un changement anticonstitutionnel, mais que nous sommes désormais engagés dans la voie de la démocratie.
Avec l'arrestation du général Gilbert Diendéré, un pan très important de l'ère Blaise Compaoré vient ainsi de tomber. Son jugement peut être déjà considéré comme celui du siècle au Burkina. Tant il a été au cœur de tous les événements du Faso durant les 27 ans de pouvoir de Blaise Compaoré. Zoumana Wonogo, Ouagadougou, VOA Afrique.
Sous quelles conditions la nonciature apostolique de Ouagadougou a-t-elle accepté de remettre le général Diendéré aux autorités burkinabées? Timothée Donangmaï a interrogé Maître Guy-Hervé Kam, porte-parole du Ballet citoyen et de la coordination des organisations de la société civile du Burkina.
Le Vatican ayant déjà été échaudé par l'affaire du général Guéhi en Côte d'Ivoire, il était tout à fait normal que des garanties de sécurité par rapport à l'intégrité physique du général Diendéré soient données par le gouvernement burkinabé. Et donc, de toute façon, tous les Burkinabés souhaitent que le général Diendéré, comme lui-même l'a dit, puisse comparaître devant le juge. Ce sont ces garanties-là donc qui ont dû être données pour que le général soit remis aux autorités burkinabées qui le mettent en mesure en attendant donc sa présentation au juge.
Qu'en est-il des autres membres du RSP?
Ben, les autres membres du RSP ont déjà été donc affectés dans d'autres unités de l'armée burkinabée. Donc, à partir de ces unités, ceux qui sont impliqués seront mis donc à la disposition des enquêteurs pour répondre aux questions qui pourront leur être posées. Pour les autres, c'est une nouvelle vie, c'est une nouvelle carrière militaire qui commence.
Que risque le général Diendéré et ses éventuels complices?
Les actes qui se sont passés ces derniers jours sont des actes de nature criminelle. Donc, il s'agit en général de la peine à la sûreté de l'État à travers deux infractions, le complot et la trahison, donc qui a entraîné donc des morts d'hommes, des atteintes aux personnes ou aux biens. Dans notre droit pénal, certaines de ces infractions, lorsqu'ils sont commis notamment par des militaires, sont sanctionnés par la peine de mort. Mais bien sûr, le Burkina Faso, depuis plusieurs années, n'exécute plus la peine de mort. Donc, on peut dire que ces personnes-là risquent l'emprisonnement à perpétuité ou à temps. L'emprisonnement à temps étant limité au Burkina Faso à 20 ans.
Que signifie la mise aux arrêts du général Diendéré pour la transition au Burkina Faso?
Je pense que la mise aux arrêts du général Diendéré mis ensemble avec la dissolution du RSP signifie quand même une nouvelle ère pour la démocratie burkinabé et pour la transition. Signifie que désormais on peut se permettre donc de regarder dans le sens donc des élections présidentielles et législatives à venir, parce que tous les Burkinabés le savaient, le disaient. Tant que cette unité-là existait, on n'était pas en sécurité et on ne pouvait pas avoir la certitude qu'on pouvait avoir des élections qui allaient bien se terminer.
Il était question d'un décalage de ces élections, une idée des délais.
À partir de l'arrestation du général Diendéré, les conditions seront maintenant réunies pour que la CENI nous propose un nouveau délai. Mais tout le monde est d'accord que tous les efforts doivent être mis ensemble pour que les élections puissent se tenir courant le mois de novembre. Et en tout cas, au plus tard, en début décembre. Mais il ne faut pas un grand report parce que un an de transition, c'est déjà trop. Donc, les Burkinabés veulent en finir.
Maître Guy Hervé Kam, porte-parole du Ballet citoyen et de la coordination des organisations de la société civile du Burkina.
Et violence hier soir au Burundi. 3 personnes ont été tuées à Bujumbura. 10 autres ont été blessées dans 2 attaques distinctes au chef-lieu de Bururi, dans le sud du Burundi. Depuis le début de cette semaine, on compte au moins 6 personnes tuées à l'arme lourde et à la grenade dans plusieurs localités du pays. Le point avec notre correspondant Christophe Kourounziza depuis Bujumbura.
Les détails des sanctions et les noms des 4 personnalités visées seront publiés au journal officiel de l'Union européenne demain vendredi. L'Union européenne accuse ces personnalités d'être impliquées dans des actes de violence, de répression ou d'incitation à la violence, y compris par des actes constituant des atteintes graves aux droits de l'homme. L'Union européenne a choisi de restreindre leurs déplacements et un gel des avoirs, mais le président burundais Pierre Nkurunziza est épargné par ces sanctions car les Européens veulent donner une chance au dialogue avec lui, selon un diplomate basé à Bruxelles. Depuis l'élection controversée de Pierre Nkurunziza pour un 3e mandat en juillet dernier, l'Allemagne et les Pays-Bas, 2 grands contributeurs, ont suspendu l'aide au Burundi. Ceci a plongé le pays dans de graves difficultés économiques, son budget dépendant jusque-là à plus de 52% de l'aide extérieure.
Voilà, et comme vous l'avez compris, c'était donc dans ce contexte que l'Union européenne a pris des sanctions contre 4 euros aux responsables clés de la sécurité au Burundi.
Et c'est ce que justement vient de nous dire Eric Manirakiza. Retour au calme à Bangui, la capitale de la République centrafricaine reprend peu à peu son rythme habituel, mais la tension reste palpable. Reportage de Freeman Sipila.
Ici, sur l'avenue des Martyrs, mais non à l'aéroport, toutes les activités sont au ralenti. Aucun véhicule n'est visible à l'exception de quelques motos et des véhicules des forces internationales. Aux abords, quelques commerces tentent de rouvrir leurs portes. Fernand est frigoriste et un homme a été tué dans les affrontements de ce mercredi à quelques mètres de son atelier. Aujourd'hui, il décide de le rouvrir.
On a vu rien que les forces des Nations Unies qui sont en passage et la population est en train de marcher en pied. On n'a pas vu la présence des taxis et des véhicules personnels.
Comme beaucoup d'autres centrafricains, Fernand demande une seule chose au gouvernement.
On condamne surtout le gouvernement parce que le gouvernement n'a pas fait son travail, parce qu'on doit désarmer tous les belligérants de ce côté Séléka et le côté Balaka, comme ça la population puisse avoir la sécurité et marcher, aller au boulot.
Jusqu'à ce jeudi, le bilan des violences de ces 5 derniers jours reste provisoire. De retour hier au pays, la présidente Catherine Samba-Panza, dénonçant une tentative de coup d'État, a par ailleurs annoncé la tenue très prochaine d'une vaste concertation avec toutes les forces vives de la nation. Freeman Sipila Bongui, VOA.
Et de son côté, du côté de l'ONU, le secrétaire général Ban Ki-moon estime que ces récentes violences visaient à déstabiliser le pays censé organiser des élections générales avant la fin de l'année.
Washington, la voix de l'Amérique, vous êtes à l'écoute du monde aujourd'hui.
Dans le reste du monde, un nouveau raid aérien russe aujourd'hui en Syrie. Les informations fournies par les autorités syriennes, russes et américaines sur les cibles diffèrent. Précision d'Ilidico.
Une source de sécurité syrienne a affirmé que l'aviation russe a frappé aujourd'hui des positions d'Al-Qaïda et des rebelles islamistes dans les provinces d'Idleb et d'Hama, au nord-ouest et au centre de la Syrie. Cette même source a rapporté que 4 avions de combat russes ont visé des bases de Jaïch al-Fatah, l'armée de la conquête, dont fait partie le front al-Nusra, la branche syrienne d'Al-Qaïda, à Jisr al-Shurur et à Jalba al-Zawiya, dans la province d'Idleb. Elle a ajouté que les frappes ont aussi touché des groupes armés, des bases et des dépôts d'armes à Awash, dans la province de Hama. Les premières frappes de l'aviation russe en Syrie ont été menées hier à la demande du président Assad. L'opposition syrienne en exil ainsi que les Occidentaux ont émis des doutes sur le choix des cibles. Le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov, a rejeté jeudi ces doutes qu'il a qualifiés d'infondés. Quant au sénateur américain John McCain, il a indiqué sur CNN que les bombardements russes ont visé des rebelles entraînés et financés par la CIA pour combattre le groupe État islamique.
Le ministre turc des Affaires étrangères a exprimé les graves préoccupations de son pays après les premières frappes russes en Syrie. Il a fait état des formations selon lesquelles la Russie aurait ciblé les positions de l'opposition plutôt que celles des djihadistes. Par ailleurs, la Russie n'a pas l'intention d'étendre ses frappes aériennes en Irak, a affirmé aujourd'hui le ministre russe des Affaires étrangères, Sergueï Lavrov.
Israël ne permettra à aucune force de menacer son avenir. Déclaration du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahou aujourd'hui à l'Assemblée générale de l'ONU. Monsieur Netanyahou a sévèrement critiqué l'accord conclu entre l'Iran et le groupe des Six, disant que Téhéran en profitera pour accroître son soutien au terrorisme. Écoutons-le à travers un interprète.
En 2013, le président Rouhani a entamé ce qu'on a appelé son offensive de charme ici aux Nations Unies. Et 2 ans après, l'Iran exécute davantage de prisonniers politiques, escalade ses agressions régionales et élargit rapidement son réseau de terreur.
Le Premier ministre israélien a par ailleurs affirmé l'appui de son pays à la lutte contre le groupe État islamique et s'est dit prêt à reprendre immédiatement les négociations avec l'autorité palestinienne sans aucune précondition.
Voilà pour le journal. Vous écoutez Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.
Actualité sportive, présentation Nicolas Pino. Salut Nicolas.
Bonsoir chérubin.
Afrobasket 2015 à Yaoundé, place au quart de finale ce jeudi.
Eh oui, le Mozambique a été battu 66-71 par le Nigeria à suivre. Égypte contre le Cameroun, l'Angola face au Gabon et le choc de l'Afrique de l'Ouest, Sénégal-Mali. Dans les matchs de classement, la Guinée qui bat l'Afrique du Sud 61-57. Succès de l'Ouganda contre l'Algérie 75-73.
Deuxième journée de l'Europa League, c'est ce soir.
Fenerbahçe va devoir faire oublier à ses supporters la déroute contre Molde lors de la première journée en allant défier le Celtic Glasgow. Liverpool tenu en échec à Bordeaux, 1-0 lors de la première journée, devrait à nouveau aligner une équipe bis pour la réception des Suisses du FC Sion. Quant au Borussia Dortmund, non seulement il se déplace chez un adversaire relativement peu impressionnant, le PAOK Salonique, mais le club de la Ruhr se rend dimanche en Bavière pour défier le Bayern de Munich.
Du soutien pour Michel Platini.
Et oui, puisque Didier Deschamps, le sélectionneur de l'équipe de France, a indiqué qu'il croyait à l'intégrité de Michel Platini, le président de l'UEFA, entendu, vous le savez, par la justice suisse, en qualité de témoin assisté assisté pour un versement de 2 millions de francs suisses par la FIFA. Michel Platini s'est justifié de ce paiement. Il a estimé qu'il était le conseiller de Sepp Blatter et qu'il avait donc fourni un travail justifié pour la FIFA.
Michel Platini qui souhaite devenir le président de la Fédération internationale de football association. Merci Nicolas.
Le Monde aujourd'hui, VOA Afrique.
Chez Robin Dorcil et Morgane Guerrier, en votre compagnie, place au dossier du jour. Première escale, les Nations Unies.
La 70e Assemblée générale des Nations Unies touche à sa fin sous un ciel pluvieux à New York. On retiendra que le drapeau palestinien a été hissé, que les thèmes africains ont été discrets et que le conflit syrien a dominé largement les débats de cette réunion au sommet des leaders du monde. Sur place, notre envoyé spécial, Tatiana Mousseau.
L'image à retenir est celle du président Obama croisant son homologue Vladimir Poutine. Outre le réchauffement des relations avec Cuba et son souhait de voir l'embargo levé, le président américain aura été implacable sur la guerre en Syrie, envoyant au passage un message aux Russes et aux Chinois.
When a dictator slaughters tens of thousands of his own people.
Quand un dictateur massacre des dizaines de milliers de ses propres citoyens, il ne s'agit plus d'affaires internes d'un seul pays. Cela crée des souffrances humaines d'une ampleur qui nous affecte tous. Quand un groupe terroriste décapite des otages, massacre des innocents, c'est un assaut contre toute l'humanité. Il n'y aura plus d'abri sûr pour les terroristes qui commettent de tels crimes.
Les sujets africains restaient timidement abordés. Les interventions des leaders africains égrenées sur plusieurs jours, certains chefs d'État ayant fait un rapide aller-retour à New York, comme la présidente Catherine Samba Panza ou encore le président malien Ibrahim Boubacar Keïta. Des grands absents aussi, comme ceux de la Côte d'Ivoire ou encore du Congo RDC. Entre les crises politiques du Burundi, Burkina Faso ou encore cette escalade de la violence en Centrafrique, les thèmes ne manquaient pourtant pas. L'occasion a été aussi de braquer les projecteurs sur la lutte contre Boko Haram, plaidée par le président nigérian.
Toutes les options doivent être explorées et tout le monde doit mettre la main à la pâte dans la quête pour une solution durable à la menace que posent les groupes État islamique, Al-Qaïda, Boko Haram et autres.
I thank you for your attention. Enfin, on retiendra cette tirade homophobe de Robert Mugabe. C'était lundi au pupitre de la 70e Assemblée Générale. Le despote de 91 ans a choisi des mots chocs.
We equally reject attempts to prescribe.
Nous rejetons également les tentatives de prescrire de nouveaux droits qui sont contraires à nos valeurs, nos normes, nos traditions, nos croyances. Nous ne sommes pas gays.
We are not gays.
Le président zimbabwéen a une fois de plus taclé l'Occident sur sa volonté, selon lui, de vouloir imposer l'homosexualité à l'Afrique en général. Son discours aura provoqué quelques rires et des applaudissements polis de l'Assemblée, composée essentiellement de chefs d'État.
Jacques Aristide avec vous dans Washington Forum. Ce jeudi, coup de projecteur sur l'Assemblée générale de l'ONU à New York, à l'heure où les crises se répètent en Afrique, notamment en Centrafrique et au Burkina Faso. Une assemblée qui a accueilli le pape François en marge de son périple américain. Cette assemblée de l'ONU sera-t-elle encore une fois beaucoup de discours et peu de décisions, comme le disent certains? Et que pensez-vous aussi de la récente visite du pape aux États-Unis? Vos commentaires sur la page Facebook de VOA Afrique, Washington Forum, ce jeudi à 19h TU, en direct de New York.
Défection au sein de l'armée burundaise, un colonel directeur des transmissions à l'état-major est parti avec son adjoint en charge de la technique, emportant tout le matériel de décryptage de messages radio, selon une source militaire qui a requis l'anonymat. Il faut dire que depuis l'échec du coup d'État du 13 mai, la méfiance s'intensifie entre les ex-forces armées burundaises, militaires de l'ancienne armée, et ceux issus des rébellions. Récemment, le chef d'état-major général a échappé à une embuscade. Trois hommes de sa garde ont été tués. Pour une analyse, Eric Manirakiza a joint à Paris le capitaine Gracien Rukindikiza, ancien officier de l'armée burundaise.
Le problème technique, parce que les transmissions peuvent être dévoilées, les gens qui sont dans la rébellion, s'ils sont en contact avec ce DTR, comme on l'appelle, pourraient, disons, capter les messages de l'armée. Et l'armée ne pourrait pas changer les fréquences comme elle entend.
Au-delà du matériel subtilisé, il s'agit d'un malaise.
Oui, il y a un malaise au sein de l'armée burundaise. On le voit bien, surtout pour les ex-FAB, parce que c'est une armée qui est pratiquement déshonorée par ses services de renseignement, par ses milices. Souvent, les militaires même se font agresser parce qu'ils sont étiquetés comme étant des putschistes. Il y a un problème. Donc, il peut y avoir un divorce entre une bonne partie de l'armée et Nkurunziza lui-même.
Quels sont d'autres risques sur le pays et quel est l'avenir de cette armée?
Le risque sur le pays, d'abord, c'est de ne pas combattre la rébellion, tout simplement, ou même d'être complice avec cette rébellion, et surtout certains militaires qui peuvent se lancer dans des attentats, ou même, pourquoi pas, contre le Nkurunziza lui-même.
Vous parlez d'une rébellion, mais cette rébellion n'existait pas encore.
Il y a les attaques, et ces attaques sont d'une rébellion. La rébellion n'a pas encore de nom, mais on voit bien qu'il y a beaucoup d'attaques, il y a beaucoup de morts, que ce soit du côté des militaires ou des policiers. C'est qu'il s'agit d'une rébellion, mais qui n'a pas encore dit son mot. Vous savez bien qu'on donne, on se prononce en disant qu'on a une rébellion, quand vraiment on a atteint un certain stade. Donc, ils n'ont pas encore atteint la phase de la publicité, comme on le dit.
Et le matériel qui a été importé par le chargé des transmissions, est-ce que ce n'est pas un matériel qu'on peut remplacer facilement?
Ce matériel peut être remplacé pas très facilement, parce qu'il est relié à ces Motorola, à ces radios. Donc, il faut qu'on ait le même matériel compatible. Il faut qu'il y ait des techniciens qui viennent changer, ou tout simplement, le pouvoir peut changer tout le système et cela peut prendre du temps. Bon, au minimum, s'ils ont beaucoup d'argent, ça peut passer une semaine. Mais s'il s'agit de bricoler, ça peut aller à 2 semaines, voire à un mois, s'ils veulent tout changer complètement.
Le capitaine Gracien Rukindikiza, ancien officier de l'armée burundaise.
Ce 1er octobre marque la journée mondiale des personnes âgées sous le thème « Durabilité et ouverture aux personnes de tous les âges dans l'environnement urbain ». Pour ce rendez-vous annuel, le mouvement togolais Martin Luther King a publié un communiqué contre l'exclusion des personnes du troisième âge qui participent au développement économique et social. Nathalie Bilbarge a joint à Lomé le président du mouvement, le pasteur Edo Komi.
Le mouvement Martin Luther King, la voix des savoirs, s'est rendu compte que de nos jours, les personnes du troisième âge sont stigmatisées, sont exclues de la prise de certaines décisions, sont humiliées en public parce que les gens estiment que ces personnes n'ont plus grand-chose à donner à la société. Et aujourd'hui, il est bien indiqué que nous puissions attirer l'attention des uns et des autres que les personnes du troisième âge ont encore beaucoup de choses à donner économiquement, politiquement, socialement à notre société et ils méritent beaucoup de considération.
Est-ce que c'est un changement qui est relativement récent ou est-ce que cela a toujours été comme ça?
Ça varie hein, d'une société à une autre, mais nous nous sommes rendus compte, par exemple dans notre société ici au Togo, le constat que nous avons fait, c'est depuis 2000, nous nous sommes rendus compte que notre société est en train de perdre sa vigueur, est en train de perdre ce respect qu'il faut aux personnes âgées. Donc nous remontons jusqu'à 2000 pour faire ce constat. Donc c'est-à-dire que le phénomène est en train de prendre ampleur et il va falloir quand même que nous veillons à cela pour que les personnes âgées puissent être mieux prises en compte pour permettre à notre société d'évoluer avec. De toute façon, on ne peut pas évoluer sans les personnes âgées parce que pour nous, c'est des ressources humaines très importantes.
Mais cela est dû à quoi selon vous?
Il y a le problème du règlement de compte. C'est signe que une personne qui est âgée aujourd'hui n'a pas préparé cette étape de la vie parce que les gens, on estime que certains ont été méchants. Quand ils avaient encore de la force de pouvoir communiquer avec les autres, ils n'avaient pas pu tenir compte de certaines valeurs de la société. Et puis quand ces personnes deviennent âgées, les autres leur disent « Mais écoutez, vous, c'est notre temps, nous allons vivre notre temps, vous, vous avez déjà vécu votre temps. » Il y a aussi le fait aujourd'hui de la modernisation de la société où les gens estiment que nous, nous sommes jeunes, nous sommes à la mode, nous pouvons faire ce que nous voulons faire. Sans vous, on peut évoluer. Donc, je crois qu'il y a tous ces facteurs-là. Les facteurs sont d'ordre sociologique, sont d'ordre économique, sont d'ordre politique, sont d'ordre aussi social. Donc, je crois que ça Ça varie d'une société à une autre, mais le phénomène est encore latent dans presque toutes nos sociétés africaines.
Et sur le plan social, hein, le plan de la santé, est-ce que le gouvernement protège suffisamment bien les personnes âgées?
Nous remarquons quand même que chez nous, ces personnes-là qui sont la plupart admises à la retraite ont déjà servi dans l'administration. C'est des gens qui sont aujourd'hui retraités, mais ces gens-là n'arrivent pas à percevoir leur pension. Donc il n'y a pas de structure. Chez nous, au Togo, il n'y a pas de structure valable, structure appropriée pour pouvoir prendre en charge des gens qui n'arrivent pas à percevoir leur pension d'abord pour que nous puissions dire que les fonds sont prélevés pour pouvoir s'occuper de leur santé. Donc, c'est dire qu'au Togo et en Afrique, dans plusieurs pays, les personnes âgées sont laissées pour compte du point de vue sanitaire, socialement. Je crois quand même que ces personnes ne continuent pas à souffrir.
Le pasteur Edo Komi du mouvement Martin Luther King Togo, que nous entendrons à 18h temps universel dans le magazine Au Féminin de VOA Afrique.
La Voix de l'Amérique, 24h sur 24, à Bamako, sur 102 FM.
Parlant de la rentrée scolaire 2015-2016 au Mali, élèves et personnels des différents établissements scolaires ont répondu présents. Cette année, le ministère de l'Éducation compte recruter de nombreux enseignants. Actualité oblige, la première leçon portait sur la paix et la réconciliation nationale, nous dit notre correspondant Kassim Traoré.
Une semaine après la fête de Tabaski, voici la rentrée scolaire 2015-2016 au Mali. Une rentrée dont la préparation n'a pas été facile pour les parents d'élèves. Une difficulté que les enfants ne ressentaient pas à ces premiers jours de l'année scolaire.
Je m'appelle Fatoumata Sidi Sissoko, je fais la 11e élève. Ça nous a choqué, hein. Ça nous a choqué parce que nous tous on pensait que c'est le lundi et puis on nous a dit que c'est le jeudi. Tout ce qu'on veut, c'est juste travailler et faire la 11e année pour partir en terminale. C'est tout. Puis le début de l'année, on dit on peut dire que c'est parfait, tout va bien, tout marche bien ici.
C'est Safiette aussi, oui, j'ai fait la 11e lettre. Je suis heureuse parce qu'on a fait une très bonne année l'année dernière. Je suis très heureuse qu'on soit rentrée.
Et surtout qu'on a été, que si j'élève à l'école de la Sonde Amélie.
La rentrée scolaire, je suis en train de préparer la rentrée scolaire par l'examen. Comme je dois faire l'examen cette année, je suis en train de préparer. J'ai tous mes fournitures scolaires. Les cours ont débuté aujourd'hui. Je souhaite la réussite.
Si dans les premières écoles que nous avons visitées, il n'y avait pas de problème, au niveau de l'enseignement secondaire et professionnel, certains enseignants et élèves n'étaient pas au rendez-vous.
Moi, c'est M. Ibrahim Amadou Diallo. Je suis professeur de l'enseignement professionnel. Dans ces pays-là, il y a certaines habitudes là, que les enfants ont commencé depuis fort longtemps. Ils se mettent dans la tête que quand l'école ouvre au milieu de la semaine, et ils ne sont pas habilités à venir à l'école. Ils peuvent toujours attendre le lundi. Alors que ces mêmes gens-là ont fait 4 mois de vacances. Donc, les autorités ne sont pas habilitées. Hein. Les autorités, il faut qu'ils s'impliquent. S'ils ne s'impliquent pas, c'est un problème.
Le ministre de l'Éducation nationale, qui a fait le tour de certaines écoles, a dans son discours mis l'accent sur le recrutement de plusieurs enseignants cette année. Konekeo Di Barthélémy Togo, ministre de l'Éducation du Mali.
Pour l'année scolaire qui commence, le département envisage le recrutement de 6056 nouveaux enseignants et l'intégration de 406 enseignants des écoles communautaires dans la fonction publique des collectivités territoriales. Au-delà de cette problématique, la complexité et la diversité de la situation de l'école nous invitent à faire preuve de créativité et envisager des solutions innovantes, flexibles et adaptées à l'évolution de notre environnement. C'est pourquoi j'invite chacun de vous à participer de façon constructive à cette recherche de solutions.
La rentrée scolaire le 1er octobre au Mali, c'est un souvenir. Mais cette année, les parents ont fait beaucoup de dépenses, surtout lors de la fête de Tabaski. C'est ce qui explique l'absence de bon nombre d'enfants dans les établissements scolaires. Bamako, Kassim Traoré, VOA Afrique.
Salut les amis, ici Roger Moutou sur VOA Afrique. Restez branchés ce soir dans RM Show à 20h, temps universel. Au menu, African Music, les anciens et nouveaux morceaux africains. Vos commentaires sur notre page Facebook, Roger Moutou, La Voix de l'Amérique. Et vos SMS au 225-58-9240. Je répète, 225-58-9240. Ne ratez pas votre émission interactive RM Show chaque soir à 20h temps universel sur VOA Afrique. Peace Africa!
VOA Afrique, les grands points de l'actualité aujourd'hui, le général Gilbert Diendéré au Burkina Faso, chef des putschistes, a été remis aux autorités par l'ambassade du Vatican.
Et au Burundi, on compte au moins 3 morts dans des quartiers de la capitale Bujumbura entre hier soir et ce matin. Et on a dénombré jusqu'à 10 blessés dans 2 quartiers dans le sud du pays.
La capitale de la République centrafricaine reprend peu à peu son rythme habituel après plusieurs jours de tension. Voilà pour cette édition. À la présentation, Georges Déonard Sagnot. Présentation, Morgane Guiriec et Chérubin Dorsil.
Et je crois que Georges était à la production. Nous avions Brian Marcoulier à la console. Ainsi va le monde aujourd'hui. Et retrouvez-nous sur Facebook et sur voafrique.com.
Vous écoutez Le Monde aujourd'hui, diffusé partout en Afrique francophone. Sur 99 FM Abidjan, à Brazzaville sur 101.9 FM, à Lomé 99.5 FM, 92.9 FM, Bahia, Burkina Faso et bien d'autres encore. Sans oublier sur Ondes Courtes, Le Monde aujourd'hui sur VOA Afrique.